un sursis supplémentaire de 120 ans a été donné à son voisin. C'est-à-dire à 120 ans de sursis. Pendant ces 120 ans, Noah a essayé, mais n'a pas pu, faire revenir cette humanité sur le bon chemin. Vous voyez ? C'est bien clair ? Qu'est-ce qu'il y a qui va se passer ? C'est pas obscur, ça veut dire à partir du moment où les lignées sont croisées, hein, alors il n'y a plus cette aide supplémentaire que Dieu envoie depuis le début. Mais il y a un sursis, comment dire, où les hommes sont livrés à leur propre force. C'est-à-dire on leur donne un temps de 120 ans pour essayer de s'en sortir. Bien sûr, il suffisait qu'ils se repentent. Et Noah a essayé, n'a pas pu. Il y a eu même encore un sursis encore supplémentaire. C'était l'honneur de Métouchélar, qui est un des patriarches de la lignée de Cheth. Et Métouchélar est mort le jour où ce sursis de 120 ans a cessé. Alors on a donné un sursis de 7 jours supplémentaires pour lui faire le kavod. Et pendant ces 7 jours supplémentaires, le soleil s'est levé de l'autre côté pour que les hommes soient avertis, attention, ils se préparent quelque chose. Et même pendant ces 7 jours, ils ont vu le soleil se lever de l'autre côté, Noah là, on lui dit, attention, regardez. Elle dit non, rien du tout. Alors au bout des 7 jours de sursis, quand on a fini de faire les shirahs de Metuchelar, alors le déluge a commencé. Dès que les premières gouttes ont commencé à tomber, tout le monde s'est rué vers la Turquie, le mont Ararat, pour aller rentrer dans l'arche. Et Noah, il a porté fermé, c'est sûr. Bon. Alors voilà, à quel moment cela se noue? Et vous voyez donc qu'il y a chaque fois un sursis possible, mais à condition que l'essentiel soit préservé. Et finalement, l'essentiel a été gâché, et par conséquent, toute cette humanité se trouvait condamnée. Vous voyez qu'en fin de compte, la clé du problème se trouve entre les mains d'Israël, enfin de l'Israël du temps. Alors il y a encore quelques versets que nous avons lire. Anéphilim ayuba aret bayaminaï. Alors, Néphilim, il y a aussi beaucoup de midrashim à ce sujet, qui sont ces Néphilim qui étaient sur la terre en ce temps-là. Je vais vous citer donc l'enseignement de Rashi. Le mot de Néphilim, ça veut dire ceux qui sont tombés. Et l'idée, nous l'avons vue précédemment, par rapport à la lignée de Cheth, c'est un niveau inférieur. Ils sont tombés. Et Rashi dit, ils sont tombés, ils ont fait tomber les autres. Ceux qu'ils devaient faire monter, les ont fait tomber. Donc, Anéphilim, ça veut dire les hommes de la chute, mais par rapport à la lignée de Cheth. Vous voyez, lorsqu'il y a un croisement entre une lignée noble et une lignée roturière, eh bien, le bâtard qui va naître est noble par rapport à la lignée roturière, mais il est roturier par rapport à la lignée noble. C'est bien clair. Alors, c'est Anéphilim. Je crois d'ailleurs que c'est l'étymologie du mot noble, tout simplement. Enfin, peu importe. Les Néphilim étaient sur la terre en ce temps-là, le Gamma Harechel, et même après, Asher Yabou Bena Elohim El Benot Adam, que les fils de Seth se sont approchés des fils de Caïn, Veyaledou Lahem, et que finalement les fils de Caïn ont engendré aux fils de Seth, ont enfanté des enfants. Ces enfants sont appelés les Giborim. Hema Giborim, c'est eux les Giborim. Les Giborim en hébreu, ça veut dire les vaillants. Hashem Me'olam Anshei Hashem, qui sont depuis toujours les gens de renom. Bon, de quoi s'agit-il? Non, c'est Néphilim, c'est Giborim. Eh bien, il faut se référer aux mythologies. Alors, dans les mythologies, on vous parle des héros qui ont été, si vous voulez, ceux qui ont essayé d'éduquer les populations. Vous comprenez? Et qui étaient d'ailleurs considérés par les populations comme des demi-dieux. Oui? Alors vous voyez de quoi il s'agit? D'une population de type enfant de Caïn, c'est-à-dire dégénéré, devenu comme des animaux, et puis des bâtards de la lignée de Cheth qui savent quand même fabriquer une enclume, faire une charrue. Vous voyez? Tout ce qu'on vous raconte dans la mythologie, ce sont les dieux qui sont venus nous apporter les premières techniques. les travaux d'Hercule, enfin toutes ces choses-là. Alors, Anshe Hashem, c'est tout simplement ce terme qui désigne les héros des mythes de l'Antiquité. Comment ? Les Néphilim et les Giborim, c'est le même genre. Comment ? C'est pour nous faire comprendre ce qui va se passer par la suite. Et qu'en tout cas, ces choses-là, il ne faut pas les recommencer. Ça veut dire, si vous voulez, en termes contemporains, c'est des demi-juifs. Alors, un demi-juif, c'est quand même quelqu'un par rapport à un stamgoï. Oui ? Alors, il nous reste deux versets. Vayarachem qui rabattra Hata Adam Baret, et Dieu dit que le mal de l'homme sur la terre rabat s'est multiplié. Vous voyez toujours ce terme qui revient. Zachol Yetzer Marcevot Libo Ratra Kolayom. Et toutes les tendances et les projets qu'il pouvait projeter, ce n'était que le mal, pendant tout ce jour-là, ou chaque jour, si vous voulez, ça vient en même. Vaïnachem Hashem Kirasa et Adam, et Dieu a regretté d'avoir fait l'homme, Baharet, sur terre, Vaïchaser et Libo, et il s'en attrista. Vaïomer Hashem, et Dieu dit, Emche et Adam, je vais effacer l'homme, Asher Barat, que j'ai créé, mais Alpene Adama, je vais l'effacer de dessus la surface de la terre, mais Adam Adéema, depuis l'homme jusqu'à la bête, à Vremes, jusqu'aux reptiles, vers Adrof à Shamaïm, jusqu'aux oiseaux du ciel, qui n'y chantent qu'à Asikim, parce que je regrette de les avoir fait. Venoir, Massachem, Venéachem. Et c'est Noir qui a trouvé grâce aux yeux du ciel. Alors c'est là qu'on retrouve. Bon. Alors, vous voyez donc que le sort de tout ce qu'il y a sur Terre dépend de ce qui se passe dans l'histoire humaine. Hein? Alors, à partir du moment où on est arrivé à une impasse de saturation du mal, c'est plus possible que l'humanité réussisse, alors tout est fait. Et nous verrons d'ailleurs que toute la manière d'être des êtres vivants est corollaire de celle de l'homme. De même qu'il y a eu des croisements dans l'humanité, de même qu'il y a eu des croisements dans les espèces humaines, et c'est très certainement là l'origine des fossiles que l'on trouve et qu'ont exploité les théories évolutionnistes. On a trouvé des fossiles, qui sont quoi ? Alors on nous les présente comme les échelons intermédiaires d'espèces. En réalité, c'est le résultat des croisements, ces fausses espèces. Ce que d'ailleurs, la Torah nous raconte plus loin. Yifrit kol bashar et darko, ça veut dire toutes les espèces, qu'elles soient humaines ou animales, se font mélanger. Bien, alors tout cela se passe dans un temps très ancien, avant le déluge. Mais vous voyez qu'il y a le schéma complet d'une tentative d'histoire humaine dans toutes ses structures, dans toutes ses coordonnées, et le récit est agencé de manière de nous raconter quelle est l'éventualité de l'échec. Alors si nous comparons ce schéma avec le schéma de notre histoire, de notre monde à nous, bien, nous voyons quand même qu'il y a une clause différente. Et c'est l'identité d'Israël. Tout est modifié par le fait qu'à partir d'Abraham, un Israël va apparaître. Mais c'est la structure la plus générale. Et encore une fois, ce n'est pas une fatalité. La Torah nous a raconté pas à pas comment c'est arrivé. À partir d'un projet initial, voilà comment les choses ont bifurqué chaque fois pour en arriver là. C'est bien clair ? Bon. Tu vois la différence ?
Non, sur l'explication, on ne peut pas dire que Dieu a regretté ou qu'il a été. C'est pas ce que tu en dis.
Pourquoi ?
Dieu a regretté.
Bon, j'entends la. Mais pourquoi ? Il s'agit du Dieu vivant. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? 10 générations avant, il y a un projet. On a pris les anges de Vitesse.
Pas on a dit.
Un régression faiblesse, un régression fort. C'est une vertu. Ça veut dire qu'il faut bien comprendre que la Torah c'est la Torah, c'est pas de la philosophie. Il s'agit bien du Créateur, de celui qui me crée moi. Et par conséquent, si moi j'échoue, ben ça fait du bruit là-haut. Ça veut dire que c'est sérieux tout ça. Comment ? C'est aussi un autre problème, enfin, d'ailleurs c'est très lié. Comment dire, à partir de chaque étape, bien entendu, Dieu, en tant qu'il a toute la connaissance, eh bien, peut prévoir comment ça va arriver. Mais à chaque étape, il y a la possibilité que la liberté de l'homme réagisse. Et Dieu s'est attristé de ce que sa créature a échoué. Et vous vous rappelez, quand je vous ai dit, et dans les yeux de Noir, on n'a pas trouvé une larme, c'est ce que Dieu attendait. Vaïn Nachem, Vaïn Krasem,
d'accord ? Je trouve ça, c'est que la chose me dépasse, quoi.
Comment la chose se dépasse ? Écoute, comprends bien une chose. C'est que, encore une fois, enfin, ça fait déjà assez longtemps que vous étudiez. Bon, il s'agit de la réalité qui est notre existence. C'est pas de la philosophie. Un dieu philosophique ne pleure pas, ne regrette pas. Le nôtre, eh bien, voilà, il pleure, il regrette. Et qu'est-ce qu'il y a d'étonnant ? C'est le dieu vivant. Ça veut dire que c'est sérieux. C'est notre sort qui est en jeu réellement et sérieusement, corollairement, au projet de notre créateur. Alors, si la création du créateur échoue, ça fait du bruit là-haut. Comme je vous disais tout à l'heure. Faites bien attention. On ne peut pas résoudre un certain problème, qui est un problème concret de notre existence, avec un appareillage mental d'un tout autre univers culturel qui serait celui de la philosophie, où on parle de Dieu, mais c'est bien entendu qu'il n'existe pas. Alors un Dieu qui n'existe pas, bien sûr, il ne peut pas pleurer. Et je comprends très bien, vous ne pouvez pas parler comme ça. Moi, je peux, parce que j'ai déjà 20 ans de plus que vous. Mais c'est pour vous faire comprendre de quoi il s'agit. C'est clair ? Tu as raison de dire « ça me dépasse ». Ça te dépasse. Mais il faut savoir que c'est comme ça que c'est. D'abord, c'est pas moi qui vous le dis, c'est la Bible. Oui. Non, c'est pas dans le même sens. C'est pas dans le même sens. Parce que là, quand même, dans ce Midrash, on peut s'étonner. Hein. Mais c'est fini. Mais ça, c'est pas étonnant. Ça, c'est encore un autre problème. Mais tu comprends ce que je veux dire ? Je veux dire, moi, ça me rassure que le Dieu dont parle la Bible peut effectivement se conduire ainsi. Ah, si c'est le Dieu de la philosophie, ça m'étonne. Oui, mais le Dieu de la philosophie n'existe pas. Vous savez très bien que c'est une idée. C'est un mot, le Dieu de la philosophie.
Et le Dieu de la Bible ?
La Bible, c'est le Dieu vivant. C'est celui qui m'a créé. Je ne suis pas créé par une idée. Je suis créé par un être. Alors, il faut vous habituer à ça. Vous ne pouvez pas traiter des problèmes de la Torah avec, encore une fois, un appareillage mental qui ressort de la métaphysique. Le Dieu de la métaphysique est impassible. Mais c'est parce qu'il n'existe pas. Vous voyez ce que je veux dire ? T'as compris ? C'est pas... effectivement, non, je comprends très bien et... C'est toute une maturité à acquérir, mais finalement, moi j'ai le pshat pour moi. Et puis d'ailleurs, à force d'étudier, vous comprendrez tout seul. Mais il faut que vous soyez assuré et rassuré que c'est bien ça que le texte veut dire, sinon il aurait dit autre chose. Ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Vous comprenez, c'est différent de dire « je comprends pas » et de dire « ça n'a pas de sens ». Bon, si on est au stade où « je comprends pas », ça veut dire « je peux encore comprendre ». Bien entendu, il faut comprendre une chose, si vous voulez, les réalités spirituelles et les réalités philosophiques, c'est pas forcément la même chose. Alors, si vous disposez d'une définition philosophique de Dieu, ça marche pas avec la Bible. Mais c'est pas pour rien, c'est pas par hasard, parce que le Dieu de la Bible, c'est pas le Dieu de la philosophie. Est-ce que c'est clair ? Je comprends bien que ça arrive de vous affoler, de vous dire comment la source, le critère de toute vérité, verroulé, qu'est-ce qu'il y a ? Vaïnaché, vaïtracé. Mais, comment dire, ça c'est du nombre de la Torah. De temps en temps, nous fait un petit clin d'œil. Mais je pense que c'est beaucoup plus rassurant d'avoir affaire à ce texte plutôt que à cette espèce. Vous savez ce que Pascal disait de Descartes ? Si vous vous souvenez de cela ? ce silence éternel des espaces infinis m'effraie. C'est Pascal, parent de Descartes. C'est ça. Lorsque Pascal a compris le monde du dieu de Descartes, il a eu peur. Puisque finalement, en tant que savant, Descartes et Pascal étaient dans le même univers. Pascal est aussi un grand savant comme Descartes, n'est-ce pas ? Mais son expérience spirituelle est autre. Lui a besoin du dieu de Pascal. Vous comprenez ? Sinon, c'est qu'on parle d'autre chose. On parle du principe d'identité mathématique érigé en absolu. Ça, c'est le dieu de Descartes. Enfin, le dieu de la philosophie de Descartes. Parce que d'autre part, Descartes était croyant, et il croyait dans le dieu de Pascal. Mais d'autre part, tandis que dans sa philosophie, il parlait du dieu de Descartes, c'est-à-dire du principe d'identité. C'est-à-dire du fondement des mathématiques. Bon, alors c'est pas le fondement des mathématiques qui m'a créé. Je suis pas une créature d'un théorème. Je suis une créature du dieu vivant. Ah, il faut pas se tromper de résiste. Est-ce que c'est clair ? C'est un récit qui nous parle des péripéties de la destinée humaine. Bon, alors, on arrive au point de chute de la Sidra, et c'est clair. Voilà, il y a eu une tentative, elle a échoué, et ça fait du bruit en haut. Bon, bien entendu, je vous conseille de ne pas parler comme ça. Non, non, c'est parce qu'il faut quand même un certain air sur la figure. Voilà, mais vous avez le temps. Bien, alors en principe, on a terminé tout ce problème. Si vous avez quand même des questions sur le sujet, il nous reste quand même 5-10 minutes.
Vous avez dit tout à l'heure qu'on peut dire que Dieu sait ce qu'on va faire, mais on peut aussi que la liberté de l'homme est indienne. Mais si Dieu sait ce qu'on va faire, qu'on peut faire de l'homme dans sa liberté.
Écoutez, je vais vous poser une question comme ça. Imaginez que je figure le passé d'un homme et son avenir à chaque instant par la figure suivante, c'est-à-dire deux ans de notre époque. Alors, à chaque instant, voilà mon passé. Donc, voilà mon avenir. Mon avenir sera la conséquence automatique de mon passé, à moins que là, je sois libre. Si je suis libre, je peux, premièrement, me repentir. Donc, modifier mon passé. Alors, mon avenir se modifie. À chaque instant, la connaissance de Dieu, c'est que c'est ce qui va arriver de moi si je ne repens pas, si je ne change pas. Mais si ma liberté joue, tout va changer. Alors, à l'instant suivant, j'ai un passé comme ça. Alors, mon avenir est comme ça, il a changé. Ici, c'était prévu que ce soit cet homme. Mais là, c'est déjà celui-là. Et je suis libre, et Dieu connaît mon avenir, mais je peux le changer à cet instant.
Alors, il y a quelque chose de destiné qu'on peut changer selon ta conduite.
C'est la différence entre la destinée et le conditionnement. Nous ne sommes pas des choses. Nous sommes des êtres vivants, nous sommes conditionnés, et non pas prédestinés. Nous sommes conditionnés, et nous pouvons agir à l'intérieur de ce conditionnement. Est-ce que tu étais là depuis le début de l'année ?
Non.
Bon. Alors, il faudra quand même rattraper. Vous voyez le problème, enfin, c'est-à-dire, bien entendu, jusqu'au bout, Dieu peut espérer que l'humanité va y compter sur Noir. Mais voilà, nous avons appris pourquoi Noir n'a pas pu. Et alors, ce verset est très important. Ça veut dire « ce vaïnachem »,« ce vaïtrafev », c'est très sérieux. Voilà, vous avez vu d'ailleurs que dans les analyses que nous faisons, pour comprendre la Torah, il faut la lire comme elle est écrite. Alors il faut la lire comme elle est écrite partout. Vous comprenez ? Bon, c'est un texte qui est, comment dire, qui est clair quand on le lit comme il est écrit. Et si ça vous étonne, alors étonnez-vous, vous. pas, ne portez pas l'étonnement sur le texte. Alors dites-vous, c'est que jusqu'à présent j'ai mal compris, ou je ne sais pas penser, ou je parle d'autre chose. Vous comprenez? C'est le texte qui va vous obliger, il va vous permettre à rentrer sur les rails de la vérité. En mikra yose mideb shuto. Ça veut dire que le texte ne doit jamais sortir de la manière dont il est écrit. Ben, vous comprenez? C'est le pshat qui fait foi. C'est de l'antisémitisme. Vous savez, dans la... Je vais vous dire, il vous arrivera de trouver au bas des pages de temps en temps un verset obscur. Dans cette Bible-là. Alors, ce qui nous console, c'est que dans la Bible chrétienne, il n'y a jamais marqué verset. Parce que là-bas, tout est obscur.
Non, des
fois, il y a
des
Parce que c'est une révélation, on ne peut pas traduire. Mais je vous parle oralement.
Même oralement,
vous dites qu'on j'ai appris. La réponse, elle est. J'ai pas dit qu'ils n'ont pas appris, mais j'ai pas dit le contraire. Et alors, c'est pas mon problème, c'est le leur. Comment? Oui, mais écoutez, je vais vous dire, il y a dans la Gemara de Shabbat une discussion qui dure 3 pages. Quand on a affaire à des traductions des livres révélés, est-ce qu'il faut sauver les traductions ou pas? C'est une Gemara. Attendez. Alors on voit que la règle, c'est qu'il ne faut pas sauver. Alors, voilà quel est le cas. Le Shabbat, il y a l'incendie. Et s'il y a l'incendie le Shabbat, on a comme tolérance de sauver de quoi manger pour 3 repas et les livres. Bon, quel livre? Alors à ce moment-là, il y a les traductions. Traduction, non, on ne sauve pas. La règle, c'est ça. Seulement voilà, plus tard, beaucoup plus tard, on a dit, allez, on sauve quand même. Pourquoi? Parce que ceux qui croient que ce texte est sacré, alors si on ne le sauve pas, on va mettre en danger le caractère sacré qui croit dans le texte, on va sauver quand même. C'est une tolérance, vous voyez? Vous voyez? Mais tenez, kavod, kit bakod. Finalement, on a donné une tolérance, on sauve quand même la vie du rabbinat, à cause du respect qu'on doit à la vie d'un hébreu. Vous avez compris le sens de cette discussion. D'ailleurs, ça vaudra la peine une fois, si on a le temps de faire cette Gemara, parce que la discussion qu'il y a là est très, très importante. C'est Perekol qui va à côté. Mais sachez bien qu'on ne peut pas traduire la Bible. Et quand vous reprendrez tous ces textes, 100 fois, 200 fois, vous verrez que tout ce qu'on a lu, c'est un survol à toute vitesse. On n'a encore rien lu. Alors, bien entendu, on ne peut pas lire ça dans des traductions de ce genre, c'est pas possible. Il faut lire la Bible comme elle est écrite.
Il n'y a pas un arabe.
Comment?
Un arabe.
Écoutez, on a demandé une fois à un arabe qui avait expliqué une page de Talmud pendant 3 mois. On a dit, maintenant, une fois que tu nous as expliqué tout ça, comment tu écrirais tout ce que tu as dit? Il a dit en recopiant la page que je vous ai expliquée. vous voyez le problème? Il n'y a pas moyen autrement. Et vous voyez que la Torah Shebaalpé et la Torah Shebaktav, il ne faut pas mélanger. Ce qui est dit oralement, c'est une chose, ce qui est écrit, c'est une autre. Ça y est, c'est compris. Vous voyez pourquoi j'écris jamais? Je ne peux pas. On va me dire, mais par écrit, la tradition d'un verset sort des cauchemars. Et finalement, je n'écrivais pas. Hein? Comment? Non, mais quand c'est oral, ça reste oral, mais je vous interdis de mettre ça par écrit. D'ailleurs, à la fin de l'année, on va reprendre tous vos cahiers. Hein. Les cahiers au feu. Les... Bon. Alors, passez de bonnes vacances.